Le faiseur de monde présente Le nouveau cycle de Yom. Deuxième livre. Le crépuscule de Los Angeles. Épisode 7.
L'histoire que j'avais racontée à Denis l'avait secouée. Et moi-même, je dois avouer, je n'en étais pas vraiment ressorti indemne. Pendant plusieurs jours, je n'osais plus aller voir la chose. Denis, bien sûr, c'était différent. Il était remonté en orbite. Il était protégé, s'il devait croire à ce que j'avais pu lui raconter, ou tout au moins à la version éco-terroriste, un petit peu mystique, de ce que je lui avais raconté. Moi, je devais vivre à côté. Si jamais quelque chose arrivait, je serais au premier rang, même en première ligne. Le quatrième jour, quand je retournais voir le Red Dust, mon cœur se figea. Il avait éclos. Cet éclair, ça avait bien une forme d'œuf, et maintenant, le haut s'était cassé. Puis, le reste s'était effondré de chaque côté. J'avais maintenant un trou dans mon sol de verre, et autour, des morceaux de basalte, explosés, à plusieurs mètres à la ronde. La violence avait dû être incroyable. Et surtout quand je voyais l'épaisseur du basalte, je n'osais réfléchir à la créature qui, à l'intérieur de cet œuf, avait réussi à en sortir, en le faisant exploser de cette manière-là. À ce moment précis, je ressentis que mon heure était arrivée. Je m'attendais à entendre les bruits de griffes sur le verre derrière moi, ou à voir une ombre brutalement s'intercaler entre le robot lumière et moi. Il me fut extrêmement pénible de rejoindre mon bunker. Je passais mon temps à me retourner. Le simple bruit des robots, pourtant habituels, me faisait tressaillir. Denis fut parfait. Sa première question fut « Je vous fais évacuer ?» Malheureusement, ça n'était pas une solution. Et puis, s'il y avait une menace, j'étais peut-être quand même le mieux placé pour essayer de la contenir. Les plans se mirent en œuvre. Bizarrement, c'est seulement à ce moment-là que l'on réfléchit au fait de camoufler l'événement. Cela faisait plusieurs mois que l'on vivait avec ça, au milieu d'une zone vide de mon entrepôt, craignant tous les jours que mes deux comparses le découvrent ou que les robots fassent un rapport. Nous avions eu une chance folle, ça n'était pas arrivé. Et maintenant que nous avions une idée de la menace, et qu'elle était presque réelle, puisque la chose était libérée, c'est le moment que nous avions choisi pour réfléchir à comment cacher la chose, et pour trouver la solution finalement assez simple. Enfin, assez simple, grâce à Denis. Encore une fois, il était capable de faire des choses qui m'étonnaient. Mais bon, passons. L'idée, effectivement, en y réfléchissant, on aurait voulu le faire avant, la solution que nous avions trouvée ne marchait pas. La chose était plus haute qu'un conteneur. Maintenant, il n'y avait plus qu'un trou avec des débris. Je pouvais assez facilement regrouper les débris autour du trou. L'idée était de poser un conteneur dessus, avec une fausse étiquette. Un conteneur, du coup, que personne ne viendrait jamais acheter, et qui resterait là, ad vitam aeternam. Il fallait simplement le trafiquer un peu, parce qu'il n'y avait évidemment pas seulement le trou dans lequel je pouvais essayer de mettre quelques restes. Il y avait des morceaux de basalte qui ne rentraient pas dans le trou. Et puis, la collerette en verre, au pied de l'œuf, dépassait encore facilement de 20 à 30 cm. Il fallait donc trouver un conteneur, un faux, lui mettre une étiquette, creuser le fond, ou faire en sorte que le fond puisse s'escamoter au moment où le robot poserait le conteneur sur le trou. C'est presque en souriant que je dis à Denis qu'un grignoteur aurait pu nous aider. Cette fois-ci, la liaison avait la vidéo et je vis que ma plaisanterie n'était pas à son goût. Il fallut encore quelques jours pour organiser cette mystification. Et cela faisait donc plus d'une dizaine de jours que j'avais découvert l'éclosion quand l'accident arriva. Un problème logistique, un conteneur qui se détache, un robot peut-être un peu vieux ou une erreur de programmation. Et l'un de mes deux responsables logistiques qui meurt écrasé. Dans n'importe quelle circonstance, ça aurait été un drame. J'ai presque envie de dire, ça aurait simplement été un drame. Mais là, forcément, la coïncidence nous serrait la gorge. Denis et moi n'osions plus parler de la chose et de la discussion que l'on avait eue sur le fait de savoir s'il fallait prévenir les militaires, s'il fallait prévenir la hiérarchie, et si à un moment nous allions être capables peut-être de combattre cette menace qui peut-être n'existait pas. La mort d'un homme sur Los Angeles, est suffisamment rare et le nombre d'hommes est suffisamment limité pour que ça fasse du bruit. Et forcément, les militaires n'allaient pas tarder à débarquer, craignant un quelconque sabotage de la part des éco-terroristes, peut-être de ces fameuses communautés cachées dans la montagne, dont on ne sait même pas si elles existent réellement. Les semaines qui suivirent furent les pires de ma vie. C'est triste à dire vu ce qui s'est passé par la suite, mais je prenais les choses pour moi et il y en avait trop. Déjà le fait de remplacer la personne décédée, de réorganiser la logistique, de mettre en place les éléments pour l'enquête, administratif, financier, assurance, tout ça c'était beaucoup de boulot. Moi je ne me cache pas derrière mon petit doigt. Je n'avais pas de peine personnelle pour celui qui était mort. Et quelque part ça m'avait quand même touché. Enfin tout ça, c'était, je vais pas dire la routine, vu que ça n'était jamais arrivé jusque-là, mais en tout cas, il existait des procédures. Derrière, fallait organiser l'arrivée des militaires, ils n'allaient pas tarder. Et là, pareil, une certaine routine, sauf que j'avais la peur au ventre. Entre-temps, le fameux conteneur truqué était arrivé. J'avais trouvé un moyen de le placer, et on commençait à mettre d'autres conteneurs autour. Je ne me rendais plus sur place. Voilà, c'était fait. Mais qu'est-ce qui était fait? Depuis, c'est un peu comme si une grosse machine s'était mise en route. Toute la journée, en plus de mon travail habituel, je devais donc gérer ces deux dossiers-là, sachant que le deuxième, l'arrivée des militaires, me faisait froid dans le dos. Le moindre interrogatoire, il risquait de voir que je n'étais pas à l'aise, ou je savais quelque chose. Oh, je ne m'imaginais pas être sur une liste de suspects. Mais bon, avec les militaires, on ne sait jamais. Les journées étaient particulièrement chargées, et que dire des nuits? Des cauchemars. Mon troisième dossier, le Red Dust. Est-ce que peut-être ils continuaient à rôder à l'intérieur de l'entrepôt? Je me surpris à y aller moins, et à y aller avec peur, presque à reculons, comme s'il était là, pas loin. J'écoutais venir les robots transporteurs, et assez régulièrement, changeais de trajectoire pour ne pas passer en dessous. J'étais en train de devenir paranoïaque. Mes nuits étaient tellement agitées que le matin j'étais épuisé. Le sixième jour, quand le représentant militaire arriva, il me trouva dans un tel état de fatigue qu'il eut presque pitié de moi. Je pense que ça m'a sauvé. Si j'avais été dans un état normal, il m'aurait sans doute interrogé comme il le fait normalement, dans le cadre de la procédure, et la peur au ventre, j'aurais peut-être craqué. Alors que là, de me voir dans un état aussi pitoyable, eh bien disons que il se montra relativement indulgent. Et puis, il était lui-même pas très à l'aise. C'était un placone, et son enquête l'obligeait à rester longtemps dans l'entrepôt. Il souffrait d'avoir un respirateur avec cette atmosphère particulièrement corrosive. Du coup, les choses allèrent assez vite. Il ne resta que 2 jours. Je soufflais, un dossier de moins. Malheureusement, ça n'arrangeait pas mes nuits, et je continuais à avoir peur. Voilà comment je fus touché au démarrage de la vengeance de le Red Dust. Après, je n'ai pas honte de le dire. Quand les choses prirent une autre ampleur, c'est presque avec soulagement que je vis la menace s'éloigner. Ça ne tarda pas. Quelques jours plus tard, c'est un accident dans l'espace qui arriva. Quelque chose de rarissime. La collision de deux transporteurs. Ces petits vaisseaux qui faisaient la navette entre les gros vaisseaux de transport qui restaient en orbite basse et les entrepôts. Pas de mort, mais des dégâts. Déjà, toutes les marchandises qui avaient été détruites, pour la compagnie avec les assurances, du boulot et de l'argent en moins. Et puis, les déchets qui, traversant l'atmosphère, étaient tombés, comme par hasard, si l'on peut dire, sur un entrepôt, faisant des dégâts encore plus importants que si une énorme météorite était tombée. Et ça n'était que le début. Quelques jours plus tard, le suicide du responsable de la sécurité du dit entrepôt. Et puis, encore, un petit peu plus tard, une mise à jour buggée, en tout cas c'est ce qu'on nous a expliqué, qui fit que, dans la plupart des entrepôts, les robots qui prenaient les conteneurs pour les placer s'en mêlaient les pinceaux. Collision, chute, accident. 2 humains furent tués. Et là encore, la pagaille, et pour la compagnie, perte de temps et destruction de marchandises. Depuis mon compte rendu sur la visite du militaire, je n'avais plus appelé Denis, et lui non plus. Lui devait certainement être débordé par tout ce qui se passait. Et moi je n'avais guère envie de l'appeler, sachant très bien vers quoi la discussion allait dériver. À chaque fois que j'y repensais, je réentendais le récit de mon éco-terroriste qui m'expliquait que la vengeance par les Azure et Dust avait commencé par les fondements de la civilisation sur Gaïa. L'image était forte. Ici aussi, les catastrophes s'attaquaient aux fondements. L'argent. La compagnie était frappée dans ce qui était le plus important pour elle. Qu'il y ait des morts, je ne vais pas dire qu'ils y étaient insensibles, mais le simple fait que les procédures existent signifiait qu'il y avait un risque connu et maîtrisé. Et ça coûtait certainement moins cher que de voir tous ces conteneurs détruits. Ensuite, il y eut ce mini tremblement de terre. Et là encore, l'enchaînement des choses, quand on y réfléchissait sous un certain angle, faisait froid dans le dos. Cette fois-ci, ce n'est pas un entrepôt qui fut frappé, mais une zone de radar, celle qui permettait de guider les vaisseaux. Le temps de la remplacer, là, c'est un accident d'une toute autre ampleur qui arriva. Une météorite, gigantesque, dont on avait mal calculé la trajectoire, et qui frappa un vaisseau. Un vaisseau de transport, les gros, ceux qui traversent l'espace. Il venait à peine de se mettre en orbite basse. Là, de même, Les dégâts furent énormes, car elle s'écrasa au sol. Le nombre de morts fut beaucoup plus important, car il y avait des humains à bord de ces vaisseaux de transport. Et puis, en termes de coûts, je n'osais même pas y réfléchir. Et bien sûr, je dis bien sûr, enfin, vous me comprenez, le vaisseau s'était écrasé sur un entrepôt, et qui plus est, sur un entrepôt de matériel technologique, cher, avec une zone militaire. On avait presque peur qu'il y ait des rejets radioactifs ou des choses comme ça. Bientôt, il n'y eut plus une journée sans son lot de catastrophes. Souvent des problèmes de robots, des problèmes de vaisseaux, des destructions, mais des morts aussi. Le mien n'avait été que le premier. La liste commençait à s'allonger. De plus en plus de mes collègues rompaient leur contrat et demandaient à partir. Les relations avec la compagnie devenaient de plus en plus tendues, car bien sûr, ils ne pouvaient pas accepter et pouvaient difficilement retenir des gens contre leur gré, surtout quand il y avait des catastrophes. Et bien sûr, plus les gens partaient, plus il y avait de catastrophes. Nous rentrions dans une espèce de cercle vicieux, absolument infernal. Et je voyais les choses se désagréger au fur et à mesure, repensant sans arrêt à ce que j'avais appris sur l'histoire des Eredust. Los Angeles était en perdition. Nous étions en perdition. Et la compagnie, si elle restait trop fort accrochée à Los Angeles, risquait aussi d'être en perdition. Je n'étais toujours pas résolu à recontacter Denis. De toute façon, il devait avoir encore plus de travail que quelques semaines auparavant. Nous avons reçu un petit nouveau. Alors je pense qu'il faisait bien les choses, même s'il n'était pas responsable de la logistique. Après tout, mon gars était parti, il avait été remplacé. J'avais toujours deux responsables de la logistique, et bizarrement, j'avais l'air d'être un petit peu à l'écart des catastrophes. Rien ne m'était arrivé. C'est moi qui avais eu le premier incident, mais depuis, j'étais préservé. C'est peut-être cela qui me poussait à garder mon silence. Seulement, une phrase, au passage, d'un nouveau, qui venait d'arriver, fit basculer toute l'histoire. Nous étions en train de lui raconter un petit peu l'histoire de Los Angeles, une sorte d'introduction, comme j'en avais eu une moi-même au tout début, avant que, devenant poissard, mes deux collègues ne me tournent le dos. Et le nouveau, à un moment, fit la remarque « C'est bizarre, tous les soirs, vous me dites que, en regardant le soleil couchant, vous voyez les anges s'envoler au loin, moi je ne les vois pas. » Étonné, nous reprîmes une habitude que nous avions perdue. Se retrouver pour regarder le coucher du soleil et regarder l'envol des anges. J'avais fini par presque trouver ça joli. Mais là, rien. Plusieurs jours d'affilée. Au bout de 10 jours, il fallut se rendre à l'évidence. Plus d'anges dans le ciel. Ni le matin, à l'aube, ni le soir, au coucher du soleil. Quelque chose était arrivé. Et pourtant, là-bas, loin, dans les montagnes, il n'y avait pas d'accident, il n'y avait pas de vaisseau. Eux n'auraient pas dû être touchés par les catastrophes qui arrivaient. Cela me frappa, et j'appelais Denis. C'est un peu honteux, mais la manière dont sa secrétaire me reçut, visiblement, elle avait des ordres. Où qu'il soit, quel que soit ce qu'il était en train de faire, elle devait l'interrompre pour que nous puissions discuter. C'est seulement par la suite que cette fierté me fit un petit peu honte. Ça voulait sans doute dire qu'il attendait mon appel depuis un petit bout de temps. Peut-être pour le réconforter. Après tout, moi je n'avais guère de mauvaises nouvelles à lui annoncer. Seulement là, la discussion prit une tournure qu'il n'avait sans doute pas imaginée. À ma question, est-ce que tu crois aux fantômes? Le silence de sa réponse se fit long. Très long. Je pense qu'il était en train de réfléchir. Non pas à ce que j'avais bien pu pouvoir dire, mais à ce que lui allait bien pouvoir me répondre. Peut-être même, pour la première fois, depuis qu'il avait entendu parler de Eredust, se posait-il sérieusement la question « Est-ce que j'y crois ?» Il n'a pas répondu. Puis, pour détendre l'atmosphère, nous avons parlé de choses et d'autres, mais, visiblement, mon appel et cette question l'avaient ébranlé.